France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, Mireille, compositrice et interprète, troisième partie. Grande Petite Mireille, un charmant spectacle présenté actuellement au Petit Théâtre Montparnasse par Hervé de Volder et Marie-Charlotte Leclerc, m'a donné l'envie de rendre hommage à ce personnage majeur de la chanson française du XXe siècle, pour ses talents de compositrice, d'interprète et aussi pour son rôle de pédagogue grâce à son petit conservatoire de la chanson. Chez Mireille, la vocation précoce de musicienne et de comédienne, doublée d'un farouche besoin d'indépendance, prend corps grâce à la rencontre de Jean Nohain, son aîné de 6 ans, qui forme avec elle au début des années 30 un tandem d'écriture très novateur. Leur premier succès, Couché dans le foin, enregistré en 1932 par les duettistes Pils et Tabet, leur vaut le grand prix du disque. À partir de cette date, les chansons du tandem connaissent une grande diffusion auprès du public grâce aux disques gravés par Pils et Tabet, Mireille, Jean Sablon et encore quelques autres. À l'automne 1935, l'orchestre de Réventura partage avec Pils et Tabet la reprise de La Petite Île, une ravissante chanson de Mireille et Jean Nohain, créée par Jean Sablon et sa sœur Germaine. Leur gravure sur disque gramophone de mai 35 bénéficie de l'accompagnement de musiciens de jazz où figure en bonne place le guitariste Django Reinhardt.
Les grands voyages, la Chine ou le Pérou, ma chère, ce n'est ni pour moi ni même pour vous.
Mais à notre âge, on est heureux partout. Le bout du monde est un peu loin.
De l'étang, connaissez-vous mon île, ma petite île, fraîche comme un matin d'avril, pour cacher notre amour et nos rêves tranquilles. Ce domicile, chérie, vous plaira-t-il? Au bout du parc, on prend la barque et l'on file.
On accoste, on débarque et l'on se faufile sous le feuillage et l'on se fait cent mille. Fragile.
Jusqu'au soir dans ma petite île.
Cette même année 1935, Mireille et Jean Nohain gravissent encore un échelon en ayant la chance d'être interprétés par Maurice Chevalier, la plus grande vedette du musical d'alors, qui fait de Quentin Vicomte sa chanson d'entrée au Casino de Paris au mois de septembre. Il la chante même l'année suivante dans le film Le Vagabond Bien-Aimé. Pour son film d'après, L'Homme du jour, il leur prend une autre chanson intitulée « Vous valez mieux qu'un sourire ». Enfin, Mireille, qui a entamé depuis 1934 une carrière scénique de chanteuse s'accompagnant au piano, se produit dans les musicals parisiens, ainsi qu'à travers toute la France et ses voisins francophones. C'est à l'occasion d'un de ses engagements parisiens, en 1937, qu'elle fait fortuitement la connaissance de l'écrivain et philosophe Emmanuel Berle, issu de la haute bourgeoisie juive, qui est une des figures de l'intelligentsia parisienne de l'époque et qu'elle va surnommer par dérision Théodore. Une rencontre improbable qu'elle évoque au cours du feuilleton des ateliers de création radiophonique que Radio France lui consacre en 1989.
Théodore était, quand je l'ai connu, directeur du journal, la célèbre journal Marianne. Très très lu. Et puis ce Marianne, ben moi j'avais trouvé que la dernière critique sur mon tour de chant, je trouvais que c'était pas assez élogieux. Alors j'avais dit, je sais pas pourquoi, j'en ai un, bon ben alors ce journal Marianne, plus jamais on ne veut plus en entendre parler. Vous n'allez pas me faire ça, me dit j'en ai un, comment? Mais j'ai une rubrique dans le journal Marianne, ma femme, mes quatre enfants, vous pouvez pas me faire ça, Marianne, je veux plus en entendre parler, c'est tout. Voilà. Et Jean Nohain s'est arrangé pour que je rencontre Théodore. Ça s'est passé dans un restaurant aux Champs-Élysées. J'ai été odieuse, désagréable, c'est pas permis. Et après le déjeuner, je ne sais même pas si j'ai regardé Théodore, je ne sais même pas comment il était. Furieuse parce que ça m'était imposé. J'avais dit à Jean Nohain, encore 10 minutes avec un Théodore pareil, je deviendrais folle. Il y a eu encore un déjeuner, je ne sais plus pourquoi, je crois avec Henri Bernstein. Et à la fin du repas, Théodore me demandait où j'allais. Je lui ai dit que je partais en tournée avec Jean Nohain. et que je me trouverais dans le, la dernière représentation, serait à, je crois que c'était à Anvers. Un mois après, il y avait au premier rang Emmanuel Berle, j'ai dit à Jean-Noël, c'est pour vous qui vient, je ne comprends pas. Voilà. Jean-Noël a fait je ne sais quel trafic, il est rentré tout seul à Paris, soi-disant il avait je ne sais pas quoi à faire, pour me laisser sans doute rentrer seul avec Emmanuel Berle. Un coup monté.
Mademoiselle, vous êtes la plus ceci, la plus cela.
Ça commence toujours ainsi, quand un monsieur vous fait du plat. Ici,
c'est vous la plus ceci,
la plus ceci,
et la plus cela.
Il vous traite de chou farci et de canard au chocolat. D'ailleurs,
c'est vous la plus ceci,
la plus ceci, la plus cela.
Et patati patati patata, et des repatati et des repatata. Il voudrait acheter la lune pour vous l'offrir dans un papier. Mais en attendant sa fortune, il la dépose à vos deux pieds. Avec un hôtel au Passy et des manteaux de chinchilla. Puisque
c'est vous la plus ceci,
la plus ceci, la plus cela.
Lorsqu'elle grave « La plus ceci, la plus cela » chez Columbia en mai 1937, Mireille n'a pas du tout l'intention de se laisser embobiner par les avances d'Emmanuel Berle, aussi brillant soit-il. Mais elle n'imagine pas jusqu'où il est prêt à aller, comme il le confiera à Jean d'Ormesson en mars 1968.
Elle voulait pas se marier avec moi, alors j'ai publié dans les journaux que j'étais fiancé avec elle. Quand elle l'a lu dans les journaux, ça l'a impressionné, et elle s'est dit que puisque c'était imprimé dans les journaux, ça devait être vrai.
Ah, je ne savais pas que c'était le résultat d'un chantage.
Un chantage, on ne peut pas dire, c'était une publicité.
Enfin, une pression morale.
Si, elle a été très ennuyée, elle était à Lille en train de faire un tour de chant, et puis on est venu la féliciter, elle a demandé quoi, et puis on lui a tiré François, où il y avait un assez gros que j'épousais Mireille. Alors elle a dit, mais c'est pas vrai. Alors les gens ont dit, vous foutez de nous. Et elle a été amenée à se dire, après tout, il va y avoir du vrai. Alors, elle est revenue de Lille, et après quelques explications un peu orageuses, alors elle a dit, en somme, puisque la moitié du chemin est fait, autant vaut aller jusqu'au bout. Après, elle l'a un peu regretté, puis ça s'est arrangé.
Leur mariage a bien lieu le 26 octobre 1937 à Paris, avec Sacha Guitry comme témoin de Berle et Jean Nohain de Mireille. Le couple emménage bientôt au Palais Royal, dans un puis deux appartements mitoyens, chacun de son côté, dans son antre de création, avec une porte de communication où Mireille fera installer une lumière rouge pour préserver son intimité. Leur adresse est le 36 rue de Montpensier, juste au-dessus de chez Jean Cocteau et près de chez Colette. Conservant son indépendance, Mireille ne renonce pas à sa carrière de musicienne et de chanteuse. Elle compose, exactement à cette époque, la chanson « C'est le début d'une aventure » dont Jean Nohain, fort bien inspiré, brode les tendres paroles. Mireille la chante à l'ABC au mois de novembre 1937. Pils et Abel la reprennent chez Columbia en janvier 1938 avec le concours du merveilleux violoniste de jazz Stéphane Grappelli.
C'est le début de l'aventure. Pas la fin. Ce sont d'adorables tortures.
On n'a plus soif, on n'a plus faim.
Plus rien ne compte, plus rien, on se le jure. Tout le passé semble défunt. Tout commence avec l'aventure dont on ne connaît pas la fin.
Deux mois plus tard, Mireille grave chez Columbia deux titres bénéficiant d'un accompagnement par l'orchestre de l'autre excellent violoniste de jazz du moment, à savoir Michel Varlop. La première face est une chanson acidulée en forme de pirouette, intitulée « Et voilà les hommes ». L'autre face est une œuvre moins connue, intitulée « Dine et Dain ». Son sujet nuptial hors norme, rempli de belles allitérations tricotées par Jean Nohain, prend grâce à cet arrangement un parfum d'Europe de l'Est qui évoque en filigrane les origines ashkénazes du père de Mireille, émigré de Pologne dans les années 1900.
Dans un vieux couvent de Béguineux, il y avait jadis un sacristain, dont la nièce s'appelait Dineux et dont le
le fils s'appelait Dain. Tous les jours après les matinaux, il se cachait dans le jardin. Dain gardait les dindons de Dino, qui gardait les dindons de Dain. Mais aux promenades câlines succédèrent des jeux malins. Dain donnait des baisers à Dino, qui rendait ses baisers à Dain. Tant et si bien comme on devine, on devine ce qu'il advint. À force de câliner Dino, un jour naquit un petit Dain. Dans tout le couvent de Béguino, cette histoire fit du vilain. Quand on sut que le fils à Dino était aussi le fils à Dain, on la traita de gourgandine, on le traita de gourgandin. Le vieux sacristain chassa Dino pour séparer Dino de Dain. Hélas, dans la nuit argentine, au même arbre dans le jardin, un soir on trouva pendu Dino, près d'elle on trouva pendu Dain. Et ce conte me turlupine, il est profondément humain. Vous connaissez plus d'une Dino, et moi je connais plus d'un Dain.
Mireille retourne en studio au mois de juin 38, mais les deux nouveaux titres qu'elle grave avec Michel Varlop resteront malheureusement inédits. Elle attendra ensuite le mois d'octobre suivant, accompagnée par l'orchestre de Pierre Zépili, pour graver des titres écrits par Jean Nohain. Je ne suis pas un vieux savant, le tableau que j'ai fait pour lui, et surtout Le temps qu'une hirondelle, qui restera une de ses chansons préférées. À cette époque, Jean Nohain crée sa propre maison d'édition musicale, Coquelicot, dont le catalogue comprendra jusqu'à la guerre la plupart des nouvelles chansons issues de sa collaboration avec Mireille. Par exemple, en 1938, un titre plein de finesse, Tant pis pour la rime, dont la création est confiée à la fantaisiste Marie Dubas. Elle ne l'enregistrera hélas jamais, laissant sa compositrice Mireille s'en charger en mai 1939, accompagnée cette fois par l'orchestre de Valberg.
Tous les poètes au clair de lune, depuis des siècles, font rimer. Blonde avec monde, brune et fortune, amour toujours, aimé, pas aimé. Caresse ivresse, si rose éclose, je veux changer toutes ces choses. Je ferai rimer s'il me plaît. Amour avec chapeau, toujours avec jamais. Je veux aimer ce soir un jeune homme aux yeux verts. Si ses yeux étaient noirs, ça ferait un plus beau vert. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je devrais dire sur les lèvres, mesdames, chacun son goût. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Je devrais dire les mains, ce serait plus régulier. Tant pis si c'est un crime, je m'en fous de la rime. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Nah.
Cette séance de mai 39 chez Columbia, qui comporte également les titres « Ah que c'est long de jour » et « Échange », est la dernière de Mireille avant la guerre. Vers le mois de juin, elle chante à la radio une chanson composée pour le Tour de France, « Bon voyage, messieurs du vélo », dont les paroles sont co-signées par Jean Nohain et Albert Wilmetz. Mireille a déjà travaillé l'été précédent avec Wilmetz pour deux chansons destinées à Maurice Chevalier, dont « Un petit air » que je vous ai diffusé la semaine dernière. Elle a en outre l'occasion, grâce à son mari, de rencontrer le poète surréaliste Robert Desnos, ce qu'elle évoquera avec Jacques Chancel sur France Inter en 1977.
Desnos, vous dites ? J'ai fait une chanson qui s'appelle... J'avais beaucoup de textes de Desnos que j'ai perdus avec la guerre. Madame Lambert affolée criait d'aller en aller. Lambert, Lambert, avez-vous vu Lambert? Bon, et puis le reste, c'est perdu. Mais Théodore voulait beaucoup que je travaille avec Desnos.
Depuis que je suis dans la marine, à bord du paquebot Pompadour, j'en ai marre de la marine. Je marronne et je pleure tous les jours. Moi qui ne rêvais qu'abordage, ciel nouveau, cyclone et orage. Je suis à bord, valet de chambre, Alors de janvier à décembre, quelles sont chaussettes, souliers, gilets, chemises? Je brosse, je repasse, je nettoie, je recouche, je reprise. Ça me neurasthénise. J'avais rêvé la vie des marins, des tropiques aux banquises, d'Amérique et d'Asie au sable africain, Bordeaux, Tokyo, Valpin, Réseau, Venise, Congo, Porto, noix de coco, Rio. Que la mer soit bleue ou grise, à fond de cale, je répare les trousseaux. Quelles sont chaussettes, souliers, gilets, chemises?
Deux textes de chansons de Robert Desnos ont au moins survécu, car Mireille les a mis en musique peu avant la guerre, ce qui a permis à l'orchestre de Reventura d'enregistrer en juin 1939 La Complainte des Caleçons et à Mireille de graver au même moment Avez-vous vu Lambert avec l'orchestre de Valberg dans une version hélas non publiée. À la veille du conflit de 1939, Emmanuel Berle a choisi de maintenir une position pacifiste. Au printemps 40, durant la drôle de guerre, Mireille ouvre un cabaret baptisé Le Petit Chemin, près de l'opéra, où elle chante tous les soirs. Mais l'invasion allemande aura raison de cette initiative et Mireille sera l'une des premières artistes émigrées durant l'exode. Le 28 mai 40, en pleine débâcle, Berle et Mireille partent donc pour s'insérer dans le Lot. Le 17 juin, Berle est appelé à Bordeaux pour travailler au discours de Pétain, récemment nommé président du Conseil. Il rédige ceux des 23 et 25 juin en inventant quelques formules choc. Il suit ensuite le gouvernement en exil à Clermont-Ferrand, puis à Vichy.
Le temps que l'Irlande passe sur la maison, j'ai perdu la cervelle sans rime. J'ai vu dans ses prunelles la plus douce oraison. Le temps qu'une hirondelle passe sur la maison, il m'a dit, mademoiselle, l'amour est de saison. Ne soyez mon corsage en dentelle et mon combinaison ont rejoint mon ombrelle là-bas sur le gazon. Le temps qu'une hirondelle passe sur la maison.
Cette reprise, gravée en mars 1940 chez Columbia par la chanteuse d'origine allemande Eva Busch, d'une belle chanson de Mireille et Jean Nohain créée 2 ans plus tôt, résonne comme une sorte de glas nostalgique. Car durant l'occupation, les musiques de Mireille finiront par être interdites de diffusion en raison de ses origines juives. De plus, la guerre a séparé pour de longues années le tandem qu'elle formait avec Jean Nohain. Durant l'été 40, Emmanuel Berle s'est détourné du régime de Vichy et a rejoint son épouse à Cannes, où il s'est remis à l'écriture. Pour sa part, Mireille compose la musique d'une opérette avec un livret du journaliste André Gillois, Le Prix de Vertu. La générale a lieu à Cannes en avril 41, puis une tournée est organisée à partir du mois de mai dans la zone libre, avec Mireille, Pierre Mingan et Max Régnier. Mais le second statut des Juifs, promulgué le 2 juin 41, menace plus directement Emmanuel et Mireille, de sorte qu'ils décident au mois de juillet de se mettre davantage à l'abri. Elle en parlera au cours du feuilleton radiophonique de 1989.
Quand il a fallu se cacher, se sauver, un ami de Théodore, Emmanuel Arago, avait une maison en Corrèze, tout à fait perdue, dans un endroit qui s'appelait Argentat. Et il nous avait demandé de venir nous réfugier là, de nous sauver à ce moment-là. Et il m'a envoyé chez le facteur d'Argentat, monsieur et madame Bouillou. Je dois ma vie, et longtemps celle de Théodore, à monsieur et madame Bouillou. Et je suis restée 5 ans. Enfin, il y a eu mille aventures à Argentat. Et j'ai eu cette chose extraordinaire que le facteur m'achète le piano droit qu'il y avait à l'hôtel de ville d'Argentat, à la salle des fêtes. J'ai ri énormément en Corrèze avec madame Bouillou. Et le facteur, c'était formidable parce que il me disait, n'allez pas là, n'achetez pas là, ne vous promenez pas là. Il savait avec ses rondes, naturellement, tout ce qui se passait. La Gestapo était dans les parages. Et c'est comme ça que j'ai pu faire venir Malraux, André Malraux et Josette. Je pensais pouvoir les cacher là. Et c'est là qu'il a commencé le maquis de Corrèze. Et alors, on pouvait se servir de moi parce que je jouais les artistes folles qui cherchaient des sous pour la Croix-Rouge, pour les blessés. Pour, voilà. Ça me permettait de bouger. J'étais la seule à pouvoir voyager, enfin voyager, entre guillemets, de bouger en tout cas avec une bicyclette.
Tour de chant, Martin Bénet, France Musique.
En 1942, la mère et les deux sœurs de Mireille arriveront à passer la ligne de démarcation pour la rejoindre en Corrèze. Jusqu'en 1943, le couple Berle est protégé par le préfet de la Corrèze, mais les derniers mois de l'occupation seront beaucoup plus dangereux pour eux. Mireille ne peut cependant pas vivre sans faire de musique. Privée de son parolier Jean Noin, elle sollicite les amis qui les ont rejoints, comme elle l'évoquera en 1977 avec Jacques Chancel sur France Inter.
Longtemps, longtemps, j'ai travaillé avec Jean Noin. Et pendant 5 ans, je me suis trouvée en Corrèze. Et j'avais à côté de Théodore, Malraux, Bertrand Jouvenel. Je les ai tous embêtés. Ça vraiment, j'ai torturé Malraux avec les chansons. Je lui ai arraché quand même 2 vers pour une valse. Mais tous les jours, il y avait un piano chez Madame Bouvieux, chez le facteur, et chaque fois qu'on n'était pas occupé ailleurs.
Il était doué pour la chanson, André Malraux ?
Oh non, ça l'ennuyait énormément. Bertrand Jouvenel aussi, ça l'assommait. Mais je les ai embêtés, j'ai obtenu des petites choses.
Après avoir été mobilisé durant la campagne de 39-40, Jean Noin a pour sa part travaillé durant 2 ans comme animateur vedette à la radiodiffusion nationale de Vichy et écrit l'opérette à succès Plume au vent. Mais à la fin 42, après l'occupation de la zone sud, il a quitté clandestinement la France pour s'engager dans les forces françaises libres. C'est ainsi qu'il a participé à la libération de l'été 44 au sein de la 2e division blindée du général Leclerc. Lorsqu'ils peuvent regagner Paris à l'automne, Mireille et Emmanuel Berle retrouvent leurs appartements du Palais Royal pillés. Ils auront bien du mal à les récupérer et à réemménager avec l'aide de leurs amis. Voici un précieux document de cette époque, lorsque Mireille revient au micro de la radiodiffusion française et répond aux questions d'André Bourillon.
Avant tout, il y a une chose que je veux absolument dire, c'est bonjour mes chers auditeurs. Voilà, ça y est.
Ah, maintenant je peux vous questionner.
Oui, maintenant ça peut aller.
Bon, dites-moi, vous êtes arrivé à Paris il y a quelques jours seulement. Et d'où venez-vous?
Mais je débarque à la radio et je viens de la Corrèze.
La Corrèze? Oh, vous étiez en plein maquis là-bas.
Ah, ça paye merveilleux.
Oui, vous étiez en plein maquis de
ça, j'étais en plein maquis, j'ai vécu avec les maquisards et puis avec les gentils corréziens. Nous avons beaucoup souffert, eu très peur. Enfin, tout ça, c'est passé.
Oui, je comprends très bien. Mais dites-moi, Mireille, pendant tout de même, vous aviez tout de même des heures de loisirs, des heures où vous pouviez sortir un peu de vous-même.
Oui. Oh, attendez, maintenant on va parler des choses plus gaies, hein, moins tristes et moins tragiques. Ben oui, entre mes bois, oh, je dois dire que même dans mon bois, j'avais une petite cabane de vigne où je me cachais quelquefois. Et puis alors, quand je pouvais sortir, j'allais alors dans un autre bois où j'avais les petits moutons.
Cette petite anecdote ne vous a pas inspiré une chanson?
Ben si, j'ai fait pas mal de musique. Je crois qu'il y a peut-être de quoi faire 2 opérettes.
2 opérettes qui vont bientôt sortir?
Ben, peut-être.
Nous l'espérons tous. Mais dites-moi, Mireille, je suis persuadée que nos auditeurs seraient heureux d'entendre une chanson de vous.
Une toute petite nouvelle, alors?
Oui, une petite nouvelle.
Mais je ne sais pas très bien, ça fait rien?
Ça n'a aucune importance.
Bon.
Alors, on vous écoute.
En français, il y a tant de mots en 6 lettres qu'on ne peut arriver à tous les connaître. À écouter les gens, on pourrait croire qu'il n'y en a qu'un.
En lisant la grammaire, on s'aperçoit qu'il n'y en a plus de 20. C'est fou ce qu'on peut exprimer en ces lettres. Mais le plus beau de ces petits mots, le plus joli, c'est lui, c'est amour. Comptez bien, je vous prie, merci, M-E-R-C-I, image ou bien envie, le Larousse en est farci, c'est fou ce qu'on peut exprimer en ces lettres, mais le plus beau de ces petits mots, le plus joli, c'est lui, c'est amour. Voilà.
Le retour de Mireille dans le métier de la chanson n'est pas si aisé, car depuis la libération, le paysage a bien changé. Mise à l'écart durant l'épuration ou simplement démodée, bien des vedettes d'avant-guerre ont dû céder leur place à une nouvelle génération de talents. Malgré le soutien de son éditeur Raoul Breton, Mireille aura du mal à intéresser ses jeunes interprètes. Elle devra attendre la fin de l'année 1947 pour faire à nouveau un succès.
La première chanson, après la guerre, après tous les drame. J'avais une petite intervention chirurgicale. Bon, j'étais à l'hôpital. Et de ma chambre, j'ai vu, il y avait un marronnier. Et je voyais de ma fenêtre, le marronnier commençait à bourgeonner, et puis en fleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, oh, c'est formidable, ce marronnier-là, il me donne du courage. Bon, puis dans mon lit, je cherchais peut-être... un air. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai appelé le jour noir, bien sûr, je lui ai montré ça parce que ça me donne du courage, parler de la Corrèze, le facteur. Donc je parle de ça et il commence quand le facteur part en tournée. On l'entend toute la matinée fredonner, ça l'avait amusé. Alors, un interprète, moi je n'avais qu'une idée pour cette chanson, je voulais Henri Salvador. J'ai trouvé Henri Salvador, je lui ai montré la chanson, voilà. Et je suis allée trouver la maison de disques. Très bien, on n'a pas de sous. Ah bon ? Non, non, on ne peut rien payer, c'est après la guerre, ça, on n'a rien, on est complètement ruiné. Pas de sous. On veut bien le faire, on veut bien vous laisser le studio. Mais on ne peut pas payer des musiciens, on ne peut rien faire. Bon. Alors, musicien, au secours, moi, le piano, à la rigueur. Et puis Salvador, il avait son frère qui jouait de la guitare, et lui-même jouait très bien de la guitare. Alors je suis retournée, j'ai dit, on fait comme ça, un piano et deux guitares. Et on a eu le grand prix du disque.
Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le peintre en bâtiment, quand il repeint l'appartement, chante gaiement. L'air de Guillaume Tell sur sa grande échelle, parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Mais le notaire qu'on voit passer avec son œil glacé, sa petite serviette, son pardessus et son air qu'on passait, rasant les murs du vieux lycée à petits pas pressés. Oh, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça, tra-la-la, tra-la-la, parce que ça me donne du courage, ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrêtait, sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens sont bêtes. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot.
Mireille étant toujours sous contrat chez Columbia, cet accompagnement improvisé dans les studios de la marque Polydor est pudiquement dénommé sur l'étiquette du disque Henri Salvador et ses rythmes, ce qui ne l'empêchera pas de remporter l'année suivante le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros. Et la chanson sera reprise par d'autres interprètes, en particulier Yves Montand, l'orchestre de Jacques Elian et Jacques Pils, désormais séparé de Georges Tabet. Ainsi relancée, la carrière de Mireille se poursuivra durant plusieurs décennies, avec notamment son petit conservatoire, comme nous le verrons dans la prochaine émission.
«
Je remercie Saul Almazeran à la préparation, Bernard Laniel à la technique, Éric Lancien à la réalisation, Aude Vassan et Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.